Oui, je vais un peu m'asseoir. Eh bien, merci pour cette prière. Et permettez-moi en retour aussi de vous bénir. Merci, mon Jésus, tu es Dieu et ta fidélité demeure. D'âge en âge et de génération en génération, tu ne changes pas d'avis comme des humains et bénis mes bien-aimés. Qu'aucun d'eux ne sorte les mains vides. Que ta grâce surabonde au-delà de ce qu'ils peuvent espérer, penser, rêver ou imaginer. Et que ce que tu avais prévu avant la fondation de la terre pour ce jour nous soit donné dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Et j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Comme disait ma sœur, je lis aussi toutes les puissances des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets, sans action, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Le seul Seigneur à qui nous avons fait, Seigneur, hommage. Et que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce matin, je parlerai sur quoi est basée ta foi. C'est quoi ta foi? C'est quoi la foi, d'ailleurs? Et la plupart d'entre nous, quand on pense à la foi, c'est quoi le fondement de notre foi? C'est quoi? Tiens, je pose des questions. Ah, 10 balles. C'est quoi la foi? Allez-y, sentez-vous libre. Une ferme assurance des choses? Ok, c'est vrai. C'est vrai, puisque la Bible le dit. Exact, c'est une démonstration, oui. La foi, la foi, la foi.
C'est croire.
Confiance. Très, très bien. Très, très bien. Alors, ce que vous dites est correct, il n'y a aucun problème. Maintenant, qui a une assurance de maison ici? Ok. Qui a une assurance d'auto? Ok. Qui a une assurance de location? Quand vous louez quelque chose, on a une assurance. Ouais. Parfait. Tous, on en a. Mais ce qui est étonnant, est-ce que si vous aurez un accident de voiture, vous êtes sûr que votre assurance, vous prenez le téléphone, allô, ma voiture est en panne, et j'ai un accident et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Vous ne dites pas ça? Et vous n'avez aucune émotion quand vous le faites. Il n'y a aucune sensation. On est tellement sûr que l'assurance, si elle ne répond pas, attention, ah, des problèmes, hein? Parce que, attends, on a conclu quelque chose. Pas question que l'argent que je dépense chaque mois, je me fasse voler. Et c'est le moment, justement. D'ailleurs, on est très content. Au moins, j'aurai la rémunération de ce que j'ai payé tant d'années, cette assurance. Oh, on se mettrait en colère si jamais l'assureur ne fait pas ce qui vous a fait rêver. Imaginez, ce même assurance va vous dire, votre voiture, quel âge est-elle? Oh, elle a 10 ans. Moi, si vous venez chez moi, le jour où vous aurez un accident, je vous offre une voiture toute neuve. Vous allez dire, ma voiture, elle a 10 ans. Tu ne vas pas me dire que tu vas m'offrir une voiture toute neuve. Non. Ce n'est pas possible. Mais je vous le garantis. Eh bien, le lendemain, je vais cogner ma voiture pour avoir une voiture toute neuve. N'est-ce pas vrai? On fait ça. Moi, je le ferai. Sans scrupule. Pourquoi, en fait? Cet assureur m'a promis plus qu'autre chose. Il m'a garanti. Alors, on fait quoi avec lui? On signe quoi?
On peut le croire et on peut encore ne pas.
C'est ça. Je ne le crois pas, hein. Je veux une garantie, moi.
Tout à fait,
bien sûr. Il prend ton stylo, et je prends mon stylo. De peur que le tien s'efface vite, je vais prendre le mien. Et on signe avec ce contrat. Je suis émerveillé. Mais ça n'a toujours pas une émotion. C'est un contrat, c'est un contrat. Alors, le problème de nous, les chrétiens, notre foi est basée sur des promesses. N'est-ce pas vrai? Imaginez cet agent d'assurance, simplement il vous promet. Et vous sortez de son bureau en étant heureux. Et le lendemain, vous avez un accident, vous croyez qu'il va vous redonner cette voiture qu'il vous a promis? Même si vous lui dites, mais t'avais promis. Ah ben, écoutez, quelle preuve vous avez que je vous ai promis? N'est-ce pas vrai? Si nous, les humains, on agit comme ça, pourquoi Dieu n'agirait pas pareil? Maintenant, la question se pose autrement. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, nous dit ceci. « Sans la foi, il est impossible de me plaire. » Encore dans Luc chapitre 22, verset 32, il leur a dit, « Ben écoutez les gars, j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. » Il tenait tellement à cœur de la foi, il dit, rien ne me plaît, hein, sans la foi il est impossible de me faire plaisir, mais rien ne peut me faire plaisir si tu ne crois pas dans ce que je t'ai promis. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un vous promet quelque chose, il peut ne pas tenir ses promesses. Un homme dans la Bible a défié Dieu. Vous allez être surpris de cet homme. Hier, j'ai parlé un peu de cet homme. Cet homme s'appelle Abraham. Abraham était bien âgé. Alors, on va ouvrir notre Bible dans Genèse, chapitre 15. Hein, hier, j'avais parlé comme quoi Abraham a découvert un avocat, il était content, il était heureux. Le lendemain, après cet événement, nous dit la Bible, l'avocat a tellement bien travaillé que le lendemain, il a eu des réponses de tout ce qu'il avait rêvé toute sa vie. Donc c'est chapitre 14 que l'avocat le rencontre, qui est le sacrificateur souverain, nous dit la Bible. Il s'appelle Melchisédek. Et le lendemain, voilà la réponse que Dieu donne à Abraham. Il lui dit, Abraham, je suis allé régler ton histoire, dit Melchisédek. C'est fait. Le dossier est posé, la réponse est faite. Voilà la preuve. On va ouvrir. Voilà ce que Dieu te donne comme promesse. Voilà, regardez ce qu'il lui dit dans chapitre 15. Alors, la Bible d'ailleurs nous dit, après ces événements, c'est juste après que Abraham a eu affaire avec Melchisédek que cette histoire se passe, au chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et lui dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu promet, il y a plein de promesses, ta récompense, elle va être magnifique. Ah, il continue. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Il y a de bonnes choses là, une voiture toute neuve ou quoi? Je m'en vais. Alors, il avait une petite plainte dans son cœur. C'est que cet homme n'a pas eu d'enfant. Alors, d'ailleurs, de l'abondance du cœur, ça ne bouge pas. La première idée qui lui est venue en disant, si tu promets tant, moi je vais te dire ce qui ne va pas en moi. Hein? Allez, il lui dit ceci. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'argent, j'en ai, les biens, j'en ai, mais je vais partir sans enfant et je n'ai pas d'enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur, Éléazar. Qu'est-ce que tu vas me promettre ? Abraham dit, voici, tu ne m'as pas, même il accuse Dieu, attention, il est gonflé le petit. Tu ne m'as pas donné de postérité et tu promets plein de choses. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Hein, tu parles. Tu veux dire que tu veux me bénir et que tu veux me donner au-delà de mon espérance. Tu parles. Vous savez, nous, on pense tellement religion, on ne comprend pas ce qui se passe. Je suis sûr, cet homme a déversé son cœur. Il a crié de tout son cœur. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ah bon ? À mon âge ? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Ah, c'est ça. Puis Dieu fit sortir de sa tente. Il lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Il ajouta, ta descendance sera aussi nombreuse qu'elle. Waouh ! Impressionnant. Il continue. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel lui déclare juste. En fait, ici il dit, Abraham écouta la voix, après l'avoir conduit hors, il regarda le ciel, il compta les étoiles, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance et l'Éternel lui imputa justice. Après, continue la suite. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ours des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. En fait, Abraham savait ce qui se passait dans sa région. Il y avait des géants, il y avait un peuple atroce qui massacre tout le monde. Donc il dit, oh, qu'est-ce qu'il me dit ? Alors il continue, Dieu continue. Seigneur, Dieu, répondait Abraham. Comment ? Non, il lui dit, alors à ce moment-là, il était un peu surpris. Il lui dit, je vais te donner cette terre toute entière. Mais je suis tout seul. Même si tu me donnes toute la terre ici, à quoi ça me sert ? C'est ça ce qu'il dit à Abraham. Mais Dieu lui dit, et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? Pour la première fois, un homme ose dire au Seigneur, quelle garantie tu me donnes que je vais l'avoir ? Gonflé le gars. Comment un Dieu qui promet, ses promesses étaient suffisantes. Et lui, il veut une garantie supplémentaire. Il dit, comment je peux savoir ce que tout tu me racontes va être réel ? Moi, je veux une garantie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, on l'a appelé le père de la foi. C'est l'homme qui a inventé un secret qu'aucun humain n'avait pensé. C'est cet homme qui a dit, signons un contrat. Voyez-vous, comme l'assurance que vous avez avec l'assurance de votre voiture. C'est ça qui vous garantit. Ce n'est pas les promesses que votre agent vous donne. C'est la signature du contrat qui règle toute l'histoire. De même, Abraham, il dit, moi je veux une garantie. Comment je peux savoir que tu vas le faire ? Je comprends que Dieu s'énerve en disant, sans la foi, il est impossible de me faire plaisir. Ça veut dire, moi je vous ai déjà donné une garantie. Comment vous osez douter que je ne le ferai pas ? C'est pour ça que Dieu dit ça. Comment Dieu règle cette histoire de garantie à Abraham ? Ah, il faut écouter. Voir l'histoire de cet homme. Alors Abraham, il continue. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur de Chaldéens pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? Quelle garantie tu me donnes ? Et il dit, et l'Éternel lui dit, prends une jeunesse, ça veut dire, je vais te le prouver. Prends une jeunesse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Parce qu'à son époque, il savait garantir quand il avait une guerre avec un peuple ou quand il voulait régler une histoire avec un peuple, il allait, il faisait une alliance. Alors il dit, waouh, ça c'est pas mal. Tu vas faire comme nous les humains. Nous, on prend un animal et les deux, par exemple, à cette époque, même en Afrique, on le fait, on amène un animal, les deux personnes posent leurs mains sur l'animal et ils se promettent. Si quelqu'un t'attaque, c'est comme s'il m'attaque. Si quelqu'un te vole, c'est comme s'il me vole. Si quelqu'un te poursuit, eh bien, je le poursuivrai aussi. C'est sur ma mort que je te le jure. Et l'autre, il dit la même chose. Il dit, moi aussi, si jamais je change d'avis, que mon sort soit comme cet animal. Quelqu'un te déteste, me déteste. Quelqu'un m'aime, t'aime. Quelqu'un ne me veut pas, il ne te veut pas. Tout ce qui t'arrive, m'arrivera. Je serai à ton côté à jamais. Alors, si je change d'avis, que ma vie soit comme cet animal. Alors, ils prennent le couteau, les deux, et ils coupent la gorge de l'animal. Et quand le sang coule, il dit, si je change d'avis, que mon sort soit comme cet animal qui est mort. Comprenez Abraham. Abraham, Dieu lui dit, amène-moi tous ces animaux. On va les tuer. Et moi, je te le garantis, si je change d'avis, que mon sort soit comme ces animaux qui meurent. Et Abraham, il tue tout, il est content. Il dit, quelle garantie, ce que je demande va être certain. Ça ne bougera pas. Il va le faire. C'est impossible que Dieu change d'avis. Amen. Impossible. Je comprends son irritation. Je comprends quand il dit, sans la foi, il est impossible de me faire plaisir. Parce que qu'est-ce que tu veux que je te donne plus de garantie que de verser mon propre sang? Jésus lui-même est devenu le garant de tout ce qu'il a promis en donnant sa vie. Alors dans cette histoire, on va continuer parce que c'est très intéressant. Voilà ce qui se passe. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceaux l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagera pas les oiseaux. Continue. Les oiseaux des proies s'abattirent sous les cadavres, mais Abraham les chassa. Ça veut dire, le diable n'est pas content quand on résout un problème par un contrat. C'est pour ça souvent nous avons des luttes. C'est pour ça souvent que le diable ne veut pas que vous sachiez que Dieu a fait un contrat avec vous. Il veut simplement que vous vous basiez sur une expérience. Alors la foi, vous croyez que c'est une expérience. Ou la foi, c'est une promesse. La foi n'est pas seulement une promesse. C'est plus qu'une promesse. Une vie est engagée dans l'histoire. La vie même de Dieu est engagée. Dieu, il dit, je t'assure, si je change d'avis dans tout ce que je t'ai promis, que ma vie soit comme ces animaux. C'est ça ce qu'il dit. Il vient, la Bible nous dit, il traversa les deux animaux qui étaient coupés en deux. Et Dieu traverse au milieu. L'oiseau de proie s'abattir sur le cadavre. Ça veut dire les puissants des ténèbres ne sont pas contents que c'est parce que cette alliance les fait perdre leur emprise sur nos vies. Alléluia! Ils ont peur de vous, si vous comprenez cela. Les puissances des ténèbres, ils ont la trouille, le savoir que vous avez conclu une alliance avec ce Dieu qui t'a dit, si tu crois en moi, je te donne la vie. Si tu crois en moi, ni la mort, ni le séjour des morts ne te sépare de moi. Continue l'histoire. Au coucher du soleil, un profond sommeil s'abat sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur. C'est ça le diable qui fait. Il nous terrorise. Des problèmes arrivent, on est terrorisé. On croit, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi il ne répond plus? Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Parce que le diable est en colère. Il ne veut pas que tu comprennes le secret qui se cache dans cette alliance avec Dieu. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut
assailli par la terreur et une grande obscurité. Continue. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux. On les réduira en esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Continue. Dieu lui dit ce qui va se passer. Il lui explique. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Continue. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoins tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Continue. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est pour ça, des fois, on prie, la réponse ne vient pas tout de suite, parce que toute chose en son temps. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Mais nous, on ne comprend pas le temps de Dieu. Ce paramètre est incroyable, le temps. C'est un paramètre qui trouble beaucoup d'hommes et de femmes, parce qu'on veut tout de suite... Parce qu'on pense que Dieu, c'est comme une machine de Coca-Cola. On met le sou, on tape, il faut que ça sorte le Coca. Ça ne marche pas comme ça. Mais sa parole ne change pas. Son alliance est éternelle. Le contrat que tu as signé est éternel. Amen. Continue. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ça veut dire Dieu, maintenant, il conclut l'alliance. Le feu. Abraham est content. Il dit, il ne va plus changer d'avis. Oh là là, si jamais il change d'avis, son sort sera comme ces animaux qui sont coupés en deux. Comment, ça serait ridicule que Dieu meure, n'est-ce pas vrai? Ridicule que Dieu meure. Ah, il est rassuré. Ouh, je le vois, cet homme fêté. D'ailleurs, le lendemain, il a couru raconter son histoire à sa femme. Ah, il a fait une petite bêtise, là. Parce qu'il est allé lui dire, on va être nombreux. Tu en auras des enfants, des multitudes. Oh, il a dit, à mon âge, tu rigoles. Parce qu'elle n'était pas au courant. Elle n'a pas pu croire. Elle a un peu espéré. Elle a dit, c'est une bonne promesse. Elle n'a pas compris que c'est une alliance. Alors elle lui dit, tu sais, à mon âge, moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Eh, mais tiens, il y a Agar, là. Oh, il est joli, tu la vois, celle-là. Ouf, écoute, prends Agar, fais des enfants. Comme ça, on peuplera cet endroit. Et moi, je le prendrai dans mes bras, ça sera comme si c'était mon fils. C'est le, ça, le fils adoptif. Et ce problème, jusqu'à aujourd'hui, trouble Israël. Jusqu'à aujourd'hui. Ismaël est né. Dieu est tellement attristé pendant 13 ans, il ne lui a pas parlé. Lisez la Bible, c'est incroyable. Et un jour, Dieu vient. Et Abraham, bon, allez, ça m'a tellement attristé ton histoire, j'étais un peu absent de ta maison. Je ne voulais même plus prendre le café avec toi. Bon, bon mais aujourd'hui, je viens te parler. Tu auras un fils. Oh, mais Seigneur, non, bénis mon fils. Il prend Ismaël, il dit, bénis mon fils Ismaël, s'il te plaît. Il lui dit, non. Il y a un autre fils qui va être... Le fils de la promesse, le fils de l'alliance. Isaac, c'est le fils de l'alliance. Et Sarah était dans le jardin, derrière la détente, elle écoute, elle dit, oh, elle éclate à rire, de rire en disant, mais mon Dieu, à mon âge, porter un enfant, mais ça ne va pas, non. Et Dieu a entendu, elle dit, quoi, qu'est-ce que tu as dit? Non, rien, mais c'est juste, c'était impressionnant. Oh non, c'est impressionnant, vous vous rendez compte? D'ailleurs, Isaac veut dire rire. Rire. Elle a ri, elle ne le croyait pas. Quand vous lisez l'histoire dans ce Genèse, vous allez découvrir que des rois sont tombés amoureux de Sarah. Je dis, attends, une femme de 90 ans, les gens tombent amoureux? Un roi, il était subjugué au point de dire à Abraham, et Abraham lui dit, tu dis pas que tu es ma femme, attention, hein, tu vas dire que tu es ma sœur. Hein. Comment ça se fait que cette femme a rajeuni d'un seul coup?
J'ai 65 ans. 90 ans, mon Dieu.
Elle n'a plus de dents. Elle a... elle a une découche. Attends, et les rois tombés amoureux d'elle. Le Dieu Elohim, le Dieu qui gère le temps. Alléluia. Dans son alliance, le secret du temps n'est plus un secret pour lui. Il l'a rajeunie, elle est devenue toute jeune. Ça a choqué tout le monde.
Elle a eu Isaac. Isaac.
Dans sa vieillesse. Et oui. Ah, cette fois-ci, Abraham ne raconte plus rien à sa femme. Un jour, Dieu lui dit, tu viens avec ton fils, on va y aller à la montagne. Il dit, d'accord, je dirai rien à ma femme. Et il prend son fils, et son fils avec lui, il avait 17 ans le petit. Ne croyez pas, ce n'était pas un gosse. À 17 ans, il l'amène, il va à la montagne. Il lui dit, ils étaient habitués à faire des sacrifices, remercier Dieu pour ce fils qui est né, Isaac, que personne n'a pensé. Il lui dit, papa, mais où est le sacrifice? Il lui dit, Dieu pourvoira. D'ailleurs, ce mot, l'Éternel pourvoit. Jéhovah Jiré, Dieu se pourvoira. Ah, Isaac est allé avec lui. Et à la fin, il lui dit, mon fils, le sacrifice c'est toi. Imaginez si c'était moi, je crois, moi je cours. Hein. Quelle obéissance du cœur d'Isaac. Il dit, d'accord papa. Il monte sur l'autel. Il le ligote. Les mains, les pieds, ton propre fils. Mon Dieu, et en plus c'est lui qui va le tuer. C'est même pas une autre personne. Il avait une telle assurance que l'alliance que Dieu a fait, le contrat que Dieu a signé est éternel. Ça ne bougera pas, donc il le ressuscitera. De toute manière, il se débrouillera. Mais moi, je ne reculerai pas un pas dans ce qu'il me demande. Il met son fils. Justement, il voulait le tuer et Dieu était impressionné. Il dit, arrête, Abraham. J'ai vu que maintenant, lisez ce texte, voyez-vous, lisez Genèse. C'est tellement riche. Arrête. Dieu a pourvu l'agneau. C'est pour ça Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a dit, dans ce cas, moi aussi, je vais donner mon fils. Mais je te garantirai que je ne changerai plus jamais les promesses que je t'ai faites. Parce qu'elles sont signé par mon propre sang. Donc, ta foi n'est pas basée sur une promesse seulement. Ta foi est basée sur une alliance. Et l'alliance se décompose de trois façons. Premièrement, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle la promesse. Deuxièmement, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle le sang. Ça veut dire c'est le garant. Parce que dans le sang, il y a la vie. Ça veut dire on donne notre vie, on donne la garantie. Votre assurance d'auto, il ne met pas sa vie là-dedans. Votre assurance d'auto vous montre combien de sous il y a dans son établissement. J'ai 1 milliard et quelque chose, donc quand tu viens chez moi, sois certain, c'est une garantie, l'argent que j'ai, que je te paierai si tu aurais un problème d'accident. Alors nous, on vérifie combien de milliards il y en a dans, dans ces polices d'assurance pour dire, bon, cette assurance, il me semble assez costaud. Hein. Allez, donc, je rentre là-dedans. Dieu dit, c'est par rapport à ma propre vie que je vous donne la garantie. Alors, vous me dites, mais comment tu as trouvé tout cela? C'est écrit dans Hébreux, on va venir dans Hébreux chapitre 6. Donc la troisième chose, c'est quoi? Donc la promesse, le sang et le fait de jurer, ou bien, comment on dit, le fait de faire un serment. On a juré, Dieu a juré. Si je ne le fais pas, que la mort soit sur moi. C'est ça ce qu'il a dit Dieu. Donc ma foi n'est pas basée sur une émotion. Ma foi n'est pas basée sur une expérience. Ma foi n'est pas basée sur une promesse. Ma foi est basée plus que cela. C'est pour ça que je ne vis pas dans mes émotions. Il faut croire en Dieu en comprenant comment il fonctionne. Ça change tout. Ton regard change. Ton approche de Dieu change. Ton amour pour lui change. Amen, amen. Alors, Hébreux, on va venir dans Hébreux chapitre 6, verset 17, on va commencer. Dieu voulant donner aux héritiers de la promesse, ça veut dire nous, une preuve supplémentaire. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse, nous, ok ? Il y a eu des promesses. Qui te guérirait est une promesse. Qui te pardonne est une promesse. Qui te donne la vie éternelle est une promesse. Qui sera avec toi tout au long de ta vie est une promesse. Qu'il pourvoie tes besoins selon sa richesse avec gloire est une promesse. Qu'il ne t'abandonnerait jamais, tu ne manqueras pas ton pain, c'est une promesse. Et qu'il pourvoie tes besoins selon sa richesse avec gloire est une promesse. Il y a plein de promesses. Alléluia. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable. Ça veut dire personne ne peut contester ça. Personne. Et continue. Irrévocable de sa décision. Il intervient par un serment. Continue. Enfin, par deux actes immuables, ainsi par deux actes irrévocables ou immuables, dans lesquels il est impossible, quoi? On peut le dire ensemble? Impossible, on peut le dire ensemble? Impossible que Dieu mente. Impossible que Dieu mente. Parce qu'il a engagé sa vie dans l'histoire. Il n'a pas engagé juste une promesse. C'est pour ça qu'Abraham, on l'appelle le père de la foi. Notre père de la foi. Cet homme a été courageux. À quoi reconnaîtrai-je que tu vas le faire? Gonflé. Courageux. Amen, amen. Alors il continue. Que Dieu, impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposer. Alléluia. Les disciples, voyez-vous, malgré qu'ils aient vu Jésus guérir des malades, malgré qu'ils aient vu des résurrections, vous savez, ils ont vu la résurrection de Lazare. Ils ont vu des aveugles voir. Ils ont vu le pain se multiplier. Ils ont vu l'eau changer en vin. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. L'expérience ne va pas être un fondement dans ta vie. Avec toutes ces expériences, le jour où Jésus a été crucifié, tous ont été taillot-taillot. Hein? Tout le monde a eu peur. C'est pour ça d'ailleurs, dans Luc chapitre 22, il leur dit, oh, j'ai prié, pas pour que vous n'ayez pas peur, non, 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 j'ai prié afin que votre foi ne défaille pas. Que vous saisissiez que moi j'ai juré que je ne peux plus changer d'avis. Je ne peux plus reculer. Dieu ne peut plus reculer, mes amis. Tu es aimé d'une façon extraordinaire, si tu le savais. Tu es désiré plus que tu le penses.
Amen. Ça va, vous me suivez ou...
Donc, vous me suivez.
Merci Seigneur.
Alors, si ta foi est basée sur une expérience, ça ne va pas. Si ta foi est basée sur une promesse, ça ne va pas. Parce que la preuve, on a des exemples. Les disciples, avec toutes les expériences magnifiques qu'ils ont vues de leurs propres yeux, ils avaient la trouille, ils ne le croyaient pas. Aujourd'hui, le même problème se répète. Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Je ne suis pas mieux que ces disciples qui étaient avec Jésus. C'est pour ça qu'on est tremblant quand quelque chose nous arrive. On ne croit pas ce qu'il dit est la vérité. On dit, j'espère. En fait, les chrétiens mélangent la foi et l'espérance. Toutes nos prières sont basées sur l'espérance, malheureusement. On espère. On prie en espérant que Dieu va le faire. T'as tout faux. Imagine-toi ton assurance d'auto, tu espères qu'il te paye. T'as tout faux. Tu n'espères pas, tu es tellement certain qu'ils vont te payer. Sinon, ils auront des avocats sur leur dos. Donc, il n'y a aucun sentiment dans l'histoire. C'est contrat, c'est contrat. Amen. Donc, pas d'émotion. Pas de sentiments, pas d'expérience, pas de promesses. C'est qu'il y a un contrat. Si ta foi est basée sur cette alliance, d'ailleurs dans le monde, si vous allez à la mairie, le jour où je me suis marié avec mon épouse à la mairie, le maire a sorti un dossier pour me dire le contrat de mariage. Voyez-vous, c'est un contrat entre deux personnes. Mais nous, en Église, on n'a pas dit ça, le contrat de mariage. On a dit quoi? Contrat d'alliance. Pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu que les humains fassent une alliance? D'ailleurs, ce n'est pas ma bague qui tient mon couple. C'est le contrat qu'on a fait, moi et elle, devant Dieu. C'est ça qui tient mon couple. Il y a des gens, comment tu sais que tu ne vas pas divorcer? Parce que je l'aime. Eh bien, moi, j'ai vu tellement de gens qui ont dit ça et qui ont divorcé. Hein. Non, parce qu'on aime Jésus. Tu parles. J'ai vu des chrétiens aussi qui ont divorcé. Donc, ta foi n'est pas basée sur une émotion. Il faut qu'elle soit basée sur un contrat. Mais ce contrat, nous, on ne l'appelle pas contrat, on l'appelle alliance. Pourquoi on l'appelle alliance? C'est tellement important de le comprendre. Comme je disais tout à l'heure, le contrat que tu as fait pour ton auto, tu n'as aucune émotion pour. Tu cherches ta voiture, tu appelles. Alors, est-ce que c'est prêt? Non, c'est dans un mois. Oh mince. Bon, ok, j'attends, hein, parce que moi, j'en ai marre hein, là, de louer des voitures. Hein. Bon, merci. Oh. Tu ne vas pas dire, j'espère que ma voiture, ils vont prendre en charge. Allô, vous êtes là? Je vous aime, je vous adore, vous êtes tellement magnifique. Est-ce que ma voiture est prête? Oh non, encore un mois? Oh non, je vous aime toujours, vous savez. Ne changez pas d'avis, fais préparer ma voiture. Vous ne dites pas ça. Et nous, on croit qu'on va rouler Dieu en lui disant « Je t'aime, je t'adore. Oh, j'espère qu'il le fasse, j'espère qu'il le fasse. » Il a fait un contrat, mon ami. Il est obligé de le faire, mon ami. Mais pas quand toi tu veux, où tu veux, comme tu veux. C'est cela la différence. Ah, Jésus, merci, je t'aime. Vous aimez Jésus?
Oui.
Alors, cette alliance, comme je vous ai dit, c'est le seul contrat légal basé sur une relation affective. le seul contrat. Dieu est tombé amoureux des mortels. C'est choquant. Vous ne vous rendez pas compte. Quand Dieu, tout à l'heure on a lu Genèse chapitre 15, c'est Dieu seulement qui a fait l'alliance. Vous n'avez pas remarqué, Abraham, normalement, quand on fait un contrat, c'est entre deux personnes. Comment ça se fait qu'Abraham n'a pas rentré son histoire? Ça ne vous a pas choqué? Il n'y a que Dieu qui s'engage. En fait, je vous explique. Le mot « alliance » consiste trois choses. La première, c'est « éternel ». Une alliance est éternelle. Comment alors le Dieu qui est éternel fait alliance avec un mortel? Ça vous choque? C'est pas compatible. N'est-ce pas vrai? Donc, si cette alliance est éternelle et que Dieu conclut une alliance avec un mortel qui s'appelle Abraham, donc Dieu devait compter sur sa descendance tout le temps. Ça veut dire, lui, il est immortel. J'avais vu un film, ça s'appelait, je crois que c'est un film en anglais, The Immortal. C'était un gars, le seul qui est sur la terre, qui ne mourrait pas. Alors tous les milliardaires le cherchaient pour le tuer, enfin pour le kidnapper, pour utiliser son sang pour être éternel. Alors imaginez, ce gars, il fuit tout le temps, continuellement, parce que son sang vaut des milliards, vous comprenez? Alors il y a tous les milliardaires, ils voulaient l'attraper pour utiliser son sang. Alors cet homme, il tombait amoureux chaque fois. Il rencontrait des femmes, il tombait amoureux. Et ces femmes vieillissaient, et lui, il était toujours jeune. Et ces femmes mouraient, elles étaient plus tristes que tristes. Alors, il ne voulait plus avoir de relation avec personne, de peur d'être encore plus attristé, parce qu'il les voyait les autres mourir, mais lui, il ne mourait pas. Alors, cette histoire avec Dieu, c'est la même chose. Dieu est immortel. Il conclut une alliance avec des mortels. Il meurt tout le temps. Alors, cette fois-ci, il a une idée magnifique. Il a dit, je vais m'incarner dans la peau d'un humain, pareil comme eux. Je vais descendre sur la terre. Je vais conclure une alliance entre moi et moi. Mais au moins l'autre va être le représentant des humains. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus, il est pleinement homme et pleinement. Yes, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Comment voulez-vous que cette alliance soit éternelle si on n'a pas quelqu'un qui est éternel, mes bien-aimés? L'amour de Dieu est tellement il est amoureux. Il a voulu s'incarner en humain. C'est ça que les anges n'arrivent pas à comprendre. Comment il peut être amoureux de ces mortels? Quand vous vous mariez, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? La richesse de l'autre devient votre richesse. La pauvreté de l'autre va être votre pauvreté. La réussite de l'autre va être votre réussite. N'est-ce pas vrai? L'os de mes os, la chair de ma chair. Et Dieu a voulu que nous soyons l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est pour ça qu'il nous a partagé quoi? La vie? Merci. Alors, le seul moyen de rentrer dans cette vie éternelle, c'est quoi? Repentez-vous. Ça veut dire, changez d'avis sur moi. Je suis amoureux fou de vous. C'est ça ce qu'il dit. Mais nous, tellement on ne s'aime même pas nous-mêmes, on ne le croit pas qu'on est aimé de Dieu. C'est malheureux. Hein? Je t'aime tellement de l'amour éternel. Alléluia. L'éternité. Celui qui est éternel épousa les mortels, mais voulait lui donner sa nature. Et il a conclu une alliance avec quelqu'un qui a été incarné humain, qui est sa part lui-même. Sa parole s'est faite chair. Elle a vécu parmi nous. Toute chose a été créée par elle. Rien n'a été créé sans elle. Toutes choses ont été créées pour elle. Alléluia. Il est venu épuiser les mortels. Au travers de Jésus. chaque fois quand tu te repens, chaque fois que tu lui dis maintenant, Seigneur, je veux reconnaître et je veux m'engager auprès de toi. Je t'apprends comme mon époux. Pardonne-moi d'avoir douté de tout cela. Je me repens. Lave-moi et purifie-moi. Fais de moi ton bien-aimé. Au moment où tu dis ça, le pardon t'est accordé, le salut t'est accordé, la vie éternelle, ça veut dire le seul qui vivait éternellement, c'était que Dieu seul. Même les anges ne vivent pas éternellement. Pourquoi ? Ils ont un commencement. Il n'y a que Dieu qui est éternel, n'est-ce pas ? Imaginez l'honneur qu'il nous fait de partager sa vie. Dieu seul est éternel. Il t'offre la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia ! De quoi douterais-je alors de ce grand amour de Dieu ? Remettrais-je en question ce qu'il dit de sa bouche ? Sa richesse devient ta richesse. Sa victoire devient ta victoire. Dès que tu prononces son nom, si tu dis mon époux Jésus, c'est en son nom, laisse-moi tranquille, toi qui m'agresses. Je peux te dire, je peux te garantir, les puissances toxiques disparaissent à un clin d'œil. Alléluia. Tu peux lui faire totale confiance. Comment il fait, c'est son problème. Quand il le fait, c'est son problème. Mais toi, ne bouge pas. J'aime Marie dans cette histoire. Un jour, elle vient, c'était ce qu'on appelle la noce, c'était un mariage. Alors, le vin manquait, et d'un seul coup, elle vient et lui dit, tu sais, le vin manque. Mais tu sais, c'est pas mon temps. Non, moi, je veux rien savoir. Je sais que tu es Dieu, et je te fais totale confiance. Elle part. Et Jésus se tourne, il dit, amenez-moi de l'eau. Ah, ils amènent les jacques d'eau, tout le temps, ils amènent. Oh là là, ils changent l'eau en vin. Au point que ça a étonné les gens qui ont nourri tout le monde, au point de dire, mais comment tu nous sers un mauvais vin à la fin, au lieu de nous servir le vin au début, le bon vin. Et cette femme, Marie, faites, elle dit, tout ce qu'il vous dira. Moi, je sais qu'il va le faire. Alléluia. Faites tout ce qu'il lui dira. Comment il le ferait, elle n'a pas réfléchi. Est-ce qu'il devait amener des jacques d'eau ou pas, ou qu'il transforme quelque chose qui n'existe pas d'existence ? C'était son problème. Ce n'était pas le problème de Marie. Mais bien émailler ce cœur, de lui faire confiance, quoi qu'il se passe, amen, de ne jamais remettre en question son amour pour toi. Alors, l'alliance contient trois choses. Premièrement, c'est sans condition. Tu ne dois pas être gentil, bon, sans condition. Simplement, la condition, c'est quoi ? Fais-moi confiance. Tout d'abord, elle est sans condition. Deuxième, elle est éternelle. C'est pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Amen. Et elle est imméritée. Tu ne mérites pas l'alliance de Dieu. Tu ne mérites pas cet amour. L'amour, ça ne se mérite pas. On tombe amoureux, d'ailleurs, on dit tomber amoureux. Vraiment, on tombe bas quand, des fois. On ne sait même pas pourquoi, mais qu'est-ce qui m'a pris de tomber amoureux ? Dieu est tombé amoureux. Et bien voilà, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je sais une chose, il m'a aimé jusqu'à la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tomber amoureux. Waouh ! Vous savez, quand vous tombez amoureux, même quand ça fait gris comme ici, c'est toujours soleil. Je ne sais pas avec quelles lunettes vous vivez. Quelqu'un qui est amoureux, il voit toujours le soleil. Quand il fait froid, il n'a pas froid. Quand il fait chaud, il n'a pas chaud. Quand il n'a pas mangé, il n'a jamais. Il ne s'inquiète pas. Il est toujours plein. Dieu est tombé amoureux de toi. Alors celui qui est amoureux de toi remettrait en question son affection pour toi, remettrait en question ce qu'il t'a promis. Est-ce qu'il ne te guérirait pas? Et dans ce contrat, il y a plein de choses qui sont incluses. Il est quelle heure? Voilà, je parle toujours moi. Dans ce contrat, voilà ce qu'il dit. Il t'a racheté. Ça veut dire racheter. Vous savez c'est quoi racheter? Quelque chose qui vous appartenait, qu'on vous a volé, et vous revenez pour l'acheter. C'est ça, racheter. Donc tu es racheté. Tu es venu à l'initial, à l'endroit où tu étais. Donc vous êtes tous ici des rachetés. Alléluia! On est des rachetés. Donc dans le contrat, il te dit, je t'ai racheté. Deuxième, dans le contrat, je t'ai pardonné. Waouh! Alors il y a des gens qui disent, oh, moi je ne pense pas que Dieu me pardonne avec tout ce que j'ai fait. Un jour, un pasteur, une femme est venue lui dire, voilà, moi je vais me suicider. Mais comme je suis chrétienne, enfin, comme je crois qu'il ne faut pas se suicider, je meurs en petit feu et je ne vais plus manger. Elle a décidé de ne plus manger, elle commençait à maigrir. Son mari était inquiet, il l'a amené auprès de ses pasteurs. Ce pasteur que vous connaissez s'appelle Yonggi Cho, c'était un pasteur coréen très connu. Alors cette femme arrive, elle est là, et Yonggi Cho la regarde et lui dit, madame, Jésus vous a pardonné. Il dit, non, vous ne comprenez pas, monsieur. Moi, personne ne peut me pardonner avec tout ce que j'ai fait. En fait, cette femme, sa sœur l'avait accueillie chez elle. Elle a commencé à coucher avec le mari de sa sœur. Elle s'en voulait tellement et à la fin, elle quitte cette maison, elle trouve un mari, un bon, celui donc qui l'a amené dans cette église. Et alors, oh là là, elle se culpabilisait tellement, elle s'en voulait tellement, elle ne voulait plus vivre. C'est un peu compréhensible, mais ça ne mérite pas la mort quand même. Alors cette femme, elle dit, monsieur Yonggi Cho, pasteur, si vous comprenez, si vous saisissez mon histoire, jamais je mérite le pardon. Je mérite la mort, moi. Ah, il lui dit, madame, est-ce que vous croyez que moi j'ai un péché? Il lui dit, vous êtes pasteur, vous ne devez pas avoir beaucoup de péchés. Il lui dit, d'accord, imaginons quelque chose. Il lui fait, alors, qu'est-ce qu'on imagine? Il lui dit, voilà, nous sommes devant un océan. Vous considérez quelle forme de péché que j'ai? Vous prenez une pierre et vous jetez dans l'eau le péché que vous considérez que moi j'ai. Alors il dit, vous êtes pasteur, vous ne devez pas avoir beaucoup de péché, tu parles. Il en a autant, s'il le savait. Mais alors, il prend la pierre. Il lui dit, alors, vous voyez dans votre vision? Il dit, oui, je vois. Vous voyez l'océan? Il dit, oui, je vois l'océan. Allez, jetez la pierre qui représente mon péché. Alors, elle jette. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Ah, il lui dit, j'ai vu une plouffe. Ah, mais plouffe. Et qu'est-ce que tu as vu après? Ben, on dirait qu'il n'y a rien. Très bien. Maintenant, vous prenez la pierre qui représente votre péché à vous. Oh, elle dit, oh, c'est un rocher. Vous vous rendez compte, monsieur le pasteur? C'est énorme, mon péché. Elle lui dit, vous prenez votre pierre ou votre rocher et vous le jetez dans l'océan. Elle dit, ah, je l'ai pris. Alors jette, il fait. Elle a jeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, tout l'océan a tremblé. Elle dit, et maintenant? Elle dit, ah, on dirait qu'il n'y a plus rien. C'est tombé dans l'océan. Voyez-vous, madame, il lui dit, la différence entre votre péché et le mien, c'est que le vôtre a fait beaucoup de bruit. Mais les deux sont au fond de l'océan. Mais bien aimé, il faut comprendre une chose. Quand Dieu te dit qu'il te pardonne, il te pardonne pour de bon. Le problème, nous, on ne se pardonne pas, hein. On a mis des différents niveaux de péché. Mais si sincèrement tu viens et tu lui demandes pardon, il est fidèle et juste pour te pardonner. D'ailleurs, quand tu confesses tes péchés, ce n'est pas pour lui, il est déjà au courant. Alors il y a des gens qui lui disent, Seigneur, je vais t'expliquer. Tu sais, tel jour j'avais fait ça, Lui, il le sait déjà, mon ami. Il veut justement que tu sois sincère avec toi-même. Il vérifie si tu es sincère avec toi-même. Le pardon, c'est dans le contrat. Amen. T'es pardonné. Toi qui se culpabilise tout le temps, t'es pardonné. Voici le jour de ton pardon, mon ami. Tu es aussi justifié. C'est dans le contrat. Ça veut dire Dieu te voit. Quand il te voit, il dit « Bonjour le juste. » »« Bonjour Seigneur. » Moi, il me voit, il me dit « Bonjour le juste. » Il te voit justifié. Ça veut dire sans faute, sans défaut. Je suis pour ça heureux de ce que je suis. Amen. Pas parce que je suis quelque chose, mais parce que lui, il a déclaré que je suis justifié. Donc le diable ne peut plus ni m'accuser, ni parler quoi que ce soit sur moi. Amen. Encore. D'ailleurs, dans Romains chapitre 5, verset 9, il dit ceci. Romains chapitre 5, verset 9, si tu arrives à sortir ça. Romains chapitre 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, Dieu t'a déclaré juste. Pourquoi toi tu te déclares autre chose? Encore. Purifié. Toi qui se sens sale. Un jour, une sœur m'a raconté qu'elle a été violée, tout ça. Elle considérait son corps tellement sale qu'elle n'aimait pas son corps. Je lui ai dit, pourquoi ce que Dieu a dit pur, pourquoi tu le considères impur? Amen. Dieu t'a déclaré pur. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Épître de Jean chapitre 1, verset 7. Purifié. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Purifié. Un autre dans ce contrat, dans cette alliance, la paix. La paix avec toi-même. Le vrai problème des frères et sœurs, on n'est même pas en paix avec nous-mêmes. On n'est pas en paix, on n'a pas conclu la paix avec Dieu. C'est pour ça, faites la paix avec Dieu. Faites la paix. Ne pensez pas que Dieu vous veut du mal, il ne vous veut que du bien. Faites la paix, amen. La paix avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. Amen, amen. Un autre encore dans ce contrat, tu as accès dans la présence de Dieu. Ça veut dire, quand tu pries, tu n'as plus besoin de passer par quelqu'un. Le téléphone rouge est toujours avec toi. Allô, bonjour Seigneur, j'ai un souci. Est-ce que quelques policiers d'ange peuvent venir? S'il te plaît papa, envoie quelques policiers d'ange qui vont m'entourer, avec des motos ils vont venir. Non, vous accompagner. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Amen, amen. Donc accès, ta prière, elle est exaucée. Dieu écoute la prière du juste. La prière du juste est efficace, nous dit dans Jacques. Il écoute. Encore. Ça fait taire le diable. C'est dans le contrat. En mon nom. Je vous ai donné le pouvoir de les lier sur la terre, sous la terre, dans les cieux, toute langue, tout ce que vous liez sur cette terre sera lié dans les cieux. Voilà ce qu'il dit. Le pouvoir de faire taire les puissances des ténèbres. Quand ils vous disent, t'es un vaurien, tu dis, tais-toi, c'est toi le vaurien. Si moi tu veux me parler de mon présent, moi je vais te parler de ton futur. Tu lui dis, son futur est la damnation éternelle. Il veut t'accuser de ton passé. Rappelle-lui son futur. Rappelle-lui son futur. Amen. Faire taire les puissances des ténèbres. C'est pour ça qu'on doit se battre, qu'on ne doit pas se laisser faire. Ta foi est basée sur ça. Mais aussi, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a promis, ça fait partie du contrat. Par mon sang, vous serez guéris. Donc il ne peut pas changer d'avis. Mais comment il le fait, je ne sais pas. Quand il le fait, je n'ai aucune idée. Mais moi, je sais que dans le contrat, c'est marqué. Amen, amen. Qu'il pourvoie tes besoins, fait partie du contrat. Mon juste ne mendiera pas son pain, ça fait partie du contrat. Donc ça n'a aucune émotion là-dedans. C'est simplement rappel à Dieu, l'alliance qu'il a conclue avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Parce que quand je parle de l'alliance, je suis ailleurs. Donc, je ne veux pas que le temps passe et que vous soyez noyés. Mais en tout cas, avec déjà de ce que je vous ai partagé, si seulement on s'accrochait sur ça, ah, ça serait différent. Aimé de Dieu, pardonné par Dieu, purifié par Dieu. Lis bien le contrat, mon ami. C'est pour ça que je vous encourage, lisez la Bible. Lisez le livre du contrat continuellement en disant « Explique-moi, s'il te plaît, explique-moi ce qui est caché dans ce magnifique dossier, s'il te plaît. » Et vous allez voir tous les secrets que vous allez découvrir. Alléluia. Alors toi qui se sens peut-être accusé, culpabilisé, règle ton histoire, parce que ça l'attriste, le Seigneur. Ça l'attriste que tu doutes de lui. Ça l'attriste que tu fasses, que tu mettes en question ce qu'il a dit. Ça l'attriste que tu ne crois pas dans ce qu'il t'a promis. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Impossible de lui faire. D'ailleurs, ce texte continue, il dit... Car Dieu, c'est le Dieu de rémunérateur. Ça veut dire que quand tu lui fais confiance, tu es toujours payé. Il y a une rémunération. Tu ne sortiras jamais les mains vides. Amen.
Amen.
Allez, fermez les yeux et parlez avec lui. Déposez tous vos fardeaux, tous vos poids, vos peines, vos maladies. C'est dans le contrat. Simplement rappelez-lui, c'est dans ton contrat, Seigneur. Tu as dit, par tes meurtres, je suis guéri. C'est dans le contrat. Oui, mais jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette maladie, Seigneur? Et ça me distrait tellement, j'arrive pas. Mais j'ai la foi aujourd'hui. J'ai la confiance. Vous savez, la confiance, c'est quoi? C'est la foi en action. J'ai confiance. Merci, mon Jésus. Seigneur, merci de venir secourir ton peuple. J'ai partagé, mais je ne suis pas mieux qu'eux, Seigneur. Je viens, secours-moi et secours-nous ensemble. Qu'on mette toujours à notre cœur cette alliance éternelle que tu as conclue. Ce contrat éternel que tu as conclu pour moi, pour mes bien-aimés, pour chacun d'entre nous ici présents. Qu'on se souvienne. Tout le temps, mets ta parole devant moi, disait Seigneur, inscris ça tout le temps, qu'on dise, mais tu as juré, Seigneur. Tu as juré par toi-même, tu ne changeras pas d'avis. Comment, Seigneur, s'il te plaît, aide ton peuple aujourd'hui de te faire confiance. T'as un problème de santé, dis-le-lui, maintenant. Et dis au nom de Jésus, maintenant, à cause de mon contrat éternel que Dieu a fait avec moi, maladie sort de ma vie. Je ne suis pas le temple de la maladie, je suis le temple du Seigneur, du Saint-Esprit. Sors maladie, tout ce qui est toxique, toi, pensée toxique, tout le temps qui viennent me tourmenter, me tyranniser, me déprimer, m'oppresser, m'accuser, me culpabiliser, tout ce qui est toxique, tu n'as aucun droit de demeurer sur moi. Dans mon contrat, tu n'as aucun droit de me torturer, de me tourmenter. Sors de ma vie maintenant, sors de ma vie, c'est un ordre, c'est dans le contrat. Vas-y, parle, parle à ton corps, parle à ta vie, parle à tes émotions, parle à ton identité, parle à ton caractère, parle à tes tempéraments, parle, je t'en prie. Dis, prononce. Prononce-le et fais-lui confiance. Ça n'a aucun, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Dieu l'a dit, donc il le fait. Merci mon Jésus. Merci mon Jésus. Même pour d'autres qui te surprend à l'intérieur de toi. Mes enfants, Seigneur, ils n'arrivent pas à te croire. Non, Seigneur, c'est dans ton contrat. Toi et ta famille, vous serez sauvés, tu as dit. C'est dans le contrat, Seigneur. C'est dans le contrat, tu ne peux pas les laisser, Seigneur. C'est dans le contrat, mon roi. Changeras-tu d'avis, mon roi? C'est dans le contrat. Ma vie change. Mon caractère change, c'est dans le contrat. Mon avenir est assuré, c'est dans le contrat. Je me sens seul, mais tu es avec moi, c'est dans le contrat. Avec toi, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, c'est dans le contrat. Jusqu'à quand laisseras-tu le diable se moquer de toi? Jusqu'à quand laisseras-tu le diable parler sur ta vie? Jusqu'à quand laisseras-tu le menteur te raconter son histoire et ne remettre en question ce contrat éternel qu'est l'alliance de ton Dieu avec toi? Jusqu'à quand? Prends le dessus maintenant, mon Jésus, mon tout bien. Ma nourriture, mon vrai breuvage, mon salut, mon bonheur, ma vie, mon soleil de justice, ma paix, ma victoire, ma guérison, ma vie, mon repos, mon soutien, mon berger, mon ami, mon maître, mon Seigneur, le roi de gloire, mon rocher, mon bannière, mon défenseur. Mon Créateur, je t'aime. Mon Avocat éternel, je t'aime. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Mon avenir est assuré. Mon présent est dans le creux de ta main. Mon passé est pardonné. Voici le jour que l'Éternel a fait pour moi. C'est fini, Satan. Tu n'as aucun droit. Que le Seigneur te réprime, Satan. Que le Seigneur te réprime. Mon Jésus, démonstration aujourd'hui, Seigneur, qu'ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant, qu'ils aient quelque chose qu'ils n'ont jamais rêvé, jamais pensé que c'était possible. Parce que l'impossible n'est pas dans ton dictionnaire, mon roi. Tu es le créateur du ciel et de la terre. L'impossible ne fait pas partie de ton dictionnaire. Merci, mon Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible. Je t'aime, mon Jésus. Fais-moi grâce, fais-nous grâce ensemble. Seigneur, j'ai partagé comme j'ai pu, comme je l'ai compris, comme tu m'as expliqué. Seigneur, mais merci de me faire grâce et de nous faire grâce ensemble. Et toute cette promesse, cette alliance éternelle, que mon cœur ne t'attriste jamais et que mon cœur toujours reste jubilant de cette alliance éternelle que tu as conclue avec moi. Je ne méritais que la mort, tu m'as donné la vie. Je ne te cherchais pas, tu t'es laissé trouver. Je ne te priais même pas, c'est toi qui m'as exaucé. Mon âme jubilie de reconnaissance. Mon être tout entier vénère ta grandeur. Qui est juste comme toi, qui est fidèle comme toi. Tu as aimé celui qui n'était pas aimable. Tu as pardonné ce qui était impardonnable. Tu as aimé, tu as guéri celui qui était destitué. Seigneur, que je suis un être, Seigneur, abominable, et tu as voulu que je sois, que je fasse partie de ta maison. Il n'a pas eu honte de les appeler ses frères, dit ta parole. Merci de ce que tu n'as pas eu honte de m'appeler ton frère. Sois béni, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, de tout mon être. Tu en es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la richesse au siècle des siècles et à jamais. Reçois ta gloire. Reçois la gloire pour toujours. Reçois ta gloire, Seigneur. Merci, mon Jésus. Tous qui sont malades dans leur corps, levez la main là où vous êtes. Et on va parler maintenant sur votre corps. Vous allez parler avec moi. Seigneur Jésus, à cause de ton alliance, aujourd'hui, comme tu l'as dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu l'as dit, je le crois, je le reçois. Comment tu le fais, je ne sais pas. À quel moment tu le fais, je ne sais pas. Mais je sais une chose, ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis. Tu ne changes pas d'avis. Je t'aime, Jésus.
Je t'aime.
Amen. Amen. C'est la confession de leur bouche, je te demande pardon pour eux, personnellement, dans tout leur corps, tout ce qui les tient. Sors maintenant et quitte leur corps, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donné. Je détruis les œuvres du diable, maintenant même, et j'efface toutes ces maladies dans les corps de mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Maintenant même, c'est un ordre. C'est un ordre. Satan, tu le sais, c'est un ordre. Corps physique, tu le sais. C'est un ordre, parce que tu fais partie de la création de Dieu, tu es obligé d'obéir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri maintenant et reçois ta guérison maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Et je maudis toute forme de maladie, maintenant, dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, dans les os, dans les muscles, dans les reins, dans le sang, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'appelle la guérison. Amen. Amen. Merci Jésus. Mais aussi tous ceux qui ont des problèmes émotionnels, qui sont souffrants, qui émotionnellement qui souffrent. À l'intérieur, ils ne savent pas pourquoi, la raison de leur souffrance. Je vais prier aussi pour vous. Seigneur Jésus, avec moi. Seigneur Jésus, tu m'as créé avec une émotion. Merci pour la guérison de mes émotions maintenant. Merci de la guérison de mon identité maintenant. Merci pour la guérison de ma personnalité. Merci pour la guérison de mon caractère. Et de mon tempérament. Restaure ma vie. Et je maudis maintenant tout ce qui m'accuse et qui me culpabilise. Tout ce qui vient de l'enfer pour me torturer. Vous n'avez aucun droit dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois et je le crois avec foi à cause de ton alliance qui demeure éternelle, imméritée et glorieuse. Amen, glorieuse, amen. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Faites des choses que vous ne pouviez pas faire. Maintenant, ce qui s'est fait, des fois, c'est fait instantanément. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, Dieu... Un jour, je me rappelle, j'étais dans une église. J'ai prié pour une femme qui avait des lunettes. Moi, je ne savais pas. Et elle me dit dans mon oreille, comme ça. Il y avait du bruit, il y avait de la musique derrière. Moi, je croyais qu'elle me demandait que je prie pour ses lunettes. J'enlève les lunettes, je prie pour elle. Elle était gênée. En fait, elle était venue pour que je prie pour ses mal de tête. Moi, j'ai prié pour ses yeux. Elle est partie. Une semaine après, le pasteur m'appelle. Il me dit, Tev, cette personne pour qui tu as prié pour ses yeux? J'ai dit, je ne me rappelais pas, moi. Il y avait du monde qui était venu. Et il me dit, elle est totalement guérie. Le premier jour, elle a vu une différence. Ça démangeait ses yeux. Elle a enlevé. Deuxième jour, elle voyait mieux. Troisième jour, elle voyait encore mieux. Et au cinquième jour, tout était bon. Comment Dieu fait? Je ne sais pas. Moi, je sais en son nom, tout genou fléchisse, tout genou, tout ce qui s'oppose fléchisse. Il n'y a rien qui peut résister au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout genou fléchisse. Amen. Alléluia. C'est ce Dieu que nous aimons. C'est ce Dieu que nous adorons. Ce n'est pas une religion que nous avons. C'est une personne magnifique qui nous a aimés malgré nos défauts. Amen. Tu es aimé. Tu vas te tourner vers quelqu'un, tu lui dis, tu sais, tu es aimé de Jésus. Vas-y. Tu es aimé de Jésus. Tu es aimé de Jésus. Et moi aussi, je suis aimé de Jésus, tu dis à toi-même maintenant. Je suis aimé de Jésus. Personne ne me sépare de lui. Amen. Je suis aimé de Jésus. Tu es aimé de Jésus. Tu es aimé de Jésus. Ne change pas d'avis. Alléluia. Merci mon Jésus. Alors que votre foi soit basée sur quoi? C'est ça. Pas sur une expérience. Pas sur une promesse seulement. Mais sur une alliance. Soyez bénis. Merci d'avoir été. Parce que je pouvais rester encore 5-6 heures pour vous partager sur l'alliance.